Oh yeah.
Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly numéro 12. Je suis Steve et je suis toujours avec Mister.
On est Bunny.
Oui, je te laisse annoncer ton propre nom. Mm-hmm. Parce que la dernière fois j'ai dérapé et tu m'en as voulu.
Ah, c'est vrai, ouais, ouais, j'avais complètement oublié en plus. J'en ai tellement voulu que j'ai complètement zappé ça. Ouais.
Ouais, comme la review de Spider-Man que j'avais oublié qu'on avait faite déjà. Tu vois. Chaque semaine on oublie un truc. C'est pas grave. Donc
d'ailleurs,
cette semaine.
T'as oublié quelque chose cette semaine, Steve. Donc confesse tes péchés dès le début.
Oui, oui, je n'ai qu'une seule review solo.
Enfin non, une seule review solo.
Oui, une seule review solo. Oui.
Mais du coup,
c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps de lire en fait. Voilà, c'est différent.
Ouais. C'est pas très grave. Mais exclusivité, on va encore faire une nouveauté puisqu'on va faire une double review. Donc c'est comme vraiment comme aux États-Unis quoi, avec des double cheese. Ils sont très forts, ils arrivent à te faire un truc gigantesque. Eh ben nous, on va tenter la double review. Voilà. Et donc ça fait peur comme ça, mais
on vous réserve ce que c'est à la fin, quoi que vous le saurez d'avance si vous regardez le minutage.
Voilà.
C'est toujours le même problème. Ok, comme toutes les semaines, on va commencer par le numéro de la semaine, ou le numéro du podcast, comme vous voulez.
Qui est le numéro 365. Allez, débrouille-toi avec ça. Non, c'est le numéro 12, bien sûr.
On a vieilli d'un coup, là.
Ouais. Oh oui, putain.
Le numéro 12, je te laisse commencer ou j'y vais en premier? Comme tu veux.
Allez, je vais commencer. Donc, moi, tout bêtement, j'ai pris le Walking Dead numéro 12. En fait, c'est à la fin de cet épisode qu'ils arrivent dans cette fameuse prison.
Ah, c'était au numéro 12.
Ah oui, à la fin du numéro 12.
J'avais l'impression que c'était plus tard que ça. J'aurais dit, tu vois, de mémoire, j'aurais dit le 20. Quoi.
Bah, au fait, il me semble bien, hein, puisque c'est à la fin du TPB numéro 2 en français. Donc, ça correspondrait au numéro 12. Et effectivement, le 13, apparemment, ils sont dans la prison. Donc, a priori, c'est celui-là, hein, sauf erreur de ma part. Donc j'espère que je me plante pas.
Bou, tu n'as même pas vérifié, Bou.
Non, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr de moi, Steve, voilà. C'est... Donc, le numéro 12, ils arrivent à la fin à la prison, et puis c'est comme ça. Et c'est bon, bah, en tout cas, dans cette fameuse prison, qu'il va se passer, des tonnes et des tonnes de numéros extraordinaires, quand même.
Ouais, qui est vraiment une grande saga de Walking Dead, et vraiment, vraiment, vraiment bien.
Ouais, je pense qu'on se souviendra beaucoup de ce passage. Donc, c'est à partir de là, d'ailleurs, que les choses sérieuses commencent, on va dire.
Ouais, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce côté, enfin, toute cette ambiance dans la prison où ils pensent être dans un refuge et finalement, pas tant que ça. Enfin.
Voilà. Bon, enfin, de toute façon, Walking Dead, une excellente série, donc mettez-vous-y si jamais vous n'avez jamais commencé. C'est la meilleure série de tous les temps, quasiment.
Exactement ce que j'allais dire. Peut-être pas meilleure série de tous les temps, mais en tout cas, si vous connaissez pas, allez-y, vraiment.
Ouais.
C'est vraiment très très bien. Ne soyez pas rebuté par le côté noir et blanc, ça vaut mieux que ce soit noir et blanc.
Ni par le côté zombie, hein, puisque c'est pratiquement pas ce qu'il y a de plus important dans Walking Dead.
Non, c'est plus une aventure humaine. Hein. Oui. Même si ça reste dans le thème de l'horreur, bien évidemment. Oui. Et puis un peu de trip et de boyau, ça fait toujours du bien.
Oui.
Faut être honnête quand même.
Petit orboyau de temps en temps, hein, Steve.
Tout de suite, genre, je suis une grosse alcoolique.
Oui.
Ok, moi, mon numéro 12, c'est le Uncanny X-Men 12. Donc moi, je vais taper dans le plus vieux, tu vois, beaucoup plus loin. Qui est la première apparition du Juggernaut.
Ah, d'accord. Je croyais qu'il arrivait avant lui, quand même.
Et non, c'est la première apparition du Juggernaut, et on le voit réellement sur la dernière case, d'ailleurs. Et c'est aussi l'origine du Professeur X. On apprend justement pas mal de choses sur son enfance, et le fait que Cain Marco, donc le Juggernaut, et lui sont demi-frères.
Oui.
Voilà. Donc, des très très vieux souvenirs.
Des très très vieux souvenirs, je crois que c'était dans le Strange 12 ou 13, je sais plus.
Je crois, puisqu'ils n'ont pas sauté de numéro, donc...
Ah oui, ça doit être le 12, alors. Voilà, c'est le 12. Le 12 qui était en couleur. Ah non, qui était toujours... Attends. Si, qui était en couleur.
C'était passé, ça y est, au grand format.
Oui.
Enfin, au grand format.
À partir du 11e, en fait.
Voilà. Bien, bon, on va attaquer la double review. Ah non, pardon,
qu'est-ce que je dis.
On va attaquer les news, et comme on avait dit cette semaine, on va pas vraiment faire de news, juste une petite, et on en parlera après. On va commencer par la review du DVD Batman Under the Red Hood, qui est sorti le 27 juillet aux États-Unis.
Voilà.
et qui donc est le nouveau long métrage d'animation des studios Warner. Donc, c'est tout simplement l'histoire de Red Hood.
Ah oui, ben enfin attends, faut déjà préciser que moi ce qui m'a étonné dès le début, c'est que contrairement à tous les autres que j'ai pu regarder, c'est extrêmement violent quand même. C'est bien plus violent et bien plus dark que les autres dessins animés, quoi, jusque-là.
C'est vrai quoi, ouais, c'est ouais, ça rentre dedans quoi. Bah, rien que
Et
la scène
c'est
d'intro est super super choc.
je crois que c'est le seul interdit aux moins de 12 ans à la sortie.
Là, je pourrais pas m'avancer par contre. Je sais plus là, s'il y en a pas eu un autre qui était interdit aux moins de 12 ans.
Ouais.
Est-ce que rappelle-toi le Crisis on Earth, c'était quand même assez rentre dedans au niveau des combats.
Oui, d'accord, mais je crois pas qu'il ait été interdit.
Ah, je sais pas, justement, je sais pas.
Ouais. Parce que là, en tout cas, celui-là, c'est sûr, était interdit au moins de 12 ans.
Bon, en tout cas, ça reste un bon petit film, même si, quand on connaît l'histoire, je trouve qu'on se fait un peu chier.
Ouais, enfin, c'est quand même sympa de l'avoir comme ça, aussi bien animé, parce que les scènes d'action sont
Ah oui,
vachement.
bien sûr.
Enfin, c'est pas bourrin, mais
Ah, si, quand même.
honnêtement. Ouais, enfin, pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure, on s'en
Ouais,
prend plein les yeux, quand même.
il fait 1h12, je crois, quelque chose comme ça.
Et puis Gotham City surtout. Voilà. Enfin, moi j'ai adoré les décors. Gotham City au début avec le ballon dirigeable, la gargouille dans le coin, etc. C'est vraiment bien rendu, quoi.
Alors par contre, moi je dois avouer que j'ai détesté les visages. J'ai détesté le Alfred, j'ai détesté le Bruce Wayne, qui est carrément mais ignoble.
Ouais, les visages sont pas terribles.
Alors
Et
en
d'ailleurs,
costume, c'est génial, mais alors quand il les enlève, fou.
et c'est assez étonnant d'ailleurs, puisqu'au fait, on se rend compte que ce film-là est hors continuité par rapport à la série habituelle, puisque si tu te souviens bien, il y avait une série où Batman était déjà avec Nightwing et Tim Drake, le troisième
Ouais.
Robin. Or là, apparemment, le troisième Robin n'est pas encore apparu,
Non, c'est vrai.
semble-t-il.
Non, 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 il n'est pas là. On ne le voit pas
Et
du tout.
pourtant. Et pourtant, Nightwing est là, mais le Joker est déjà, enfin semble déjà bien plus vieux qu'à l'accoutumée. Déjà, même quand il tue Jason Todd, il semble vraiment super vieux, le Joker. Et voilà, et donc c'est assez étrange, quoi. Par contre, Alfred a fait une petite cure de. Enfin, il s'est retrouvé des cheveux, quoi, par rapport à la
Ouais.
série normale.
Moi, personnellement, j'aime pas du tout le Alfred.
Non, mais
J'ai pas
moi
reconnu Alfred, en
je
fait.
suis pas fanade, effectivement, du character design des personnages. Humain, on
C'est
va dire.
un dénommé, j'ai oublié son prénom, Suzuki. C'est
Ouais,
son nom de
bah
famille. Et ça se sent hein, d'ailleurs, hein, très, très presque manga, quoi.
ouais, mais ouais, ça fait un. Enfin, c'est pas non plus The Batman hein, dans le
Ah non, non,
style.
non, bah non, c'est pas du Jeff Matsuda non plus.
Voilà, donc parce que The Batman, vraiment, je pouvais pas. Mais là, ce qui m'a posé problème, c'est dans les scènes d'animation. Enfin, dans les scènes d'animation. Tout est animé, évidemment, mais. Je veux dire, dans les scènes de poursuite, etc., où ça
Ah oui.
bouge beaucoup. Par exemple, quand tu vois la Batmobile avancer, tu vois, ça fait vraiment Batmobile en cel-shading collé sur l'écran
Ah, on voit
qui.
beaucoup, ouais, beaucoup d'éléments qui sont du cel-shading. Moi, ce
Voilà.
que j'ai pas trop aimé non plus dans les scènes de course-poursuite, c'est l'animation des courses. Je les ai trouvées très rigides quand ils courent.
Ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, quand même, quoi, tu
Bah,
vois, c'est.
ça reste quand même un très bon film. Là, on donne
Oui,
l'impression
ça reste
peut-être
de
qu'on
la
n'a pas
bonne
trop
cave, hein,
aimé, mais
c'est.
non, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a des petits trucs qui m'ont fait marrer, genre Black Mask habillé façon Scarface, tout en blanc. Et puis alors, c'est vraiment Scarface, quoi.
Ouais. Puis, non, mais il y a plein de petits moments. Alors bon, c'est moins drôle hein, que le film qu'on avait chroniqué sur.
Crisis on Two Earths.
Voilà. C'est quand même moins fandard, etc. C'est bien plus
Ah bah, le
sombre.
thème s'y prête pas trop de toute façon.
Oui,
Hein.
voilà.
Ce qui est très drôle, c'est le passage avec Nightwing qui pour moi reste pas assez longtemps. Notamment par le fait qu'il est doublé par Neil Patrick Harris. Donc pour ceux qui regardent How I Met Your Mother, c'est Barney.
Voilà.
Et bah, même s'il essaye de pas faire trop du Neil Patrick Harris, enfin du Barney surtout quand il parle, dès qu'il commence à s'emporter un peu au niveau de la voix, on sent les intonations et on ressent tout de suite qui c'est, quoi. D'ailleurs, le cast vocal est, je trouve, très très bon pour ce film.
Le cast vocal, et puis de toute façon il y a une espèce d'ambiance vraiment assez ouais assez lourde, assez très très bien rendu, quoi. Gotham City, vraiment l'ambiance Batman, quoi, est vraiment là, quoi, pendant un peu plus d'1 heure, donc c'est vraiment bon. Par contre, comme tu disais, oui, bah c'est vraiment le scénario de Jude Winnick adapté.
Il y a quelques libertés et quelques updates faits au niveau de l'histoire, puisque la mort de Robin, enfin de Jason Todd, se passe en Bosnie-Herzégovine et non plus au Liban, je crois que c'était, dans Death in the Family.
Ouais, c'était en tout cas dans un pays...
Quelque chose comme ça, enfin c'était au Moyen-Orient, en tout cas là c'est en Bosnie-Herzégovine. Le Joker ne s'enfuit pas en se faisant passer pour un ambassadeur, il a simplement été engagé par Ra's al Ghul.
Oui.
Donc voilà, il y a quelques petits updates au niveau de l'histoire, mais finalement c'est pas si dérangeant que ça, je trouve. Moi qui suis pourtant, j'aime pas trop qu'on change les choses, ça va encore, là c'est correct.
Oui, puis enfin de toute façon, il fallait adapter un minimum pour une heure.
Parce que de toute façon, le retour, je vois pas comment ils auraient pu expliquer le retour de Jason Todd autrement. Enfin, s'ils avaient vraiment faire les comics, nous expliquer une Infinite Crisis en moins d'une heure dix.
Non, c'est impossible.
Voilà.
C'est impossible.
C'était de mêler tout ça.
Ouais.
Il y a quelque chose, ouais, comme tu as parlé de Tim Drake qu'on voit pas. C'est vrai que c'est des petites choses qui manquent, je trouve. Il manque une partie du casting habituel de Batman. On voit pas Oracle. On voit pas Tim Drake. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors qu'on voit furtivement passer le commissaire Gordon.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas grand monde finalement.
C'est peut-être un petit peu dommage.
En même temps, en 1h10 de film, c'est difficile de...
Un petit caméo comme on a eu Gordon qui passe vraiment sur un plan, un petit caméo pour les fans, ça aurait peut-être été sympathique.
Ouais. Bah ouais. Mais
bon, une autre chose que j'ai trouvé assez moyenne de mon côté, c'est le Joker. Bon, déjà la gueule, j'aime pas du tout. De toute façon, c'est tous les visages que j'aime pas dans cette série, mais bon, enfin dans ce film. Donc voilà, ça va avec. Mais c'est vraiment le Joker du Dark Knight de Christopher Nolan.
Oui, c'est vraiment. Mais enfin oui, puis c'est vraiment un vieux Joker surtout.
Il est
on sent qu'il est marqué par les années.
La scène où justement Black Mask vient le voir à Arkham, où il prend le verre, il le casse et il tranche la gorge d'un gars et puis qui les flingue tous les uns après les autres, c'est vraiment le Joker de Dark Knight, c'est pas le Joker des comics quoi.
Oui, et puis de toute façon on le voit dès le début, il est assez massif, et puis la scène de mise à mort de Jason Todd est vraiment très violente et fait penser plutôt à ce Joker là, vraiment complètement cinglé, psychopathe et tout, alors que le Joker du dessin animé il est bien plus détendu du slip. Hein.
Oui, mais je pense qu'il faut pas voir ça comme une continuité du dessin animé de Bruce Timm. Hein.
Ah, pas du tout, non.
Sinon, on risque d'être déçu quand même.
C'est complètement à part, et comme je disais, c'est vraiment un film, en tout cas, moi je trouve bien plus adulte que les autres productions que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Quoi.
Mais j'ai en tout cas, ça reste très très bien, hein, franchement.
Ah oui, oui. Oui, non, ça reste un très bon film, et de toute façon, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir récemment sur du dessin animé tiré de comics.
Puis comme je disais, le casting vocal joue vachement. Enfin, Bruce Greenwood en Batman, il a vraiment la voix pour faire Batman.
Ouais, exactement.
On a aussi Jensen Ackles, qu'on peut voir dans Supernatural, qui fait le grand frère Dean, pour ceux qui suivent la série.
Puis pas le grand frère...
Non, c'est pas le même. Pas du tout.
Voilà. Range ta chambre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel?
Ouais, Jensen Ackles, dans le rôle de Jason Todd, le fait très très bien aussi.
D'accord. Mais alors je sais pas s'il va y avoir une sortie en version française.
Bah ils en parlent justement, j'ai pu voir l'article sur Cable Chronicles il y a 2-3 jours, qu'apparemment les films DC vont enfin être licenciés en France, et donc on devrait avoir, je crois, le Justice League et le Batman. Je crois en septembre, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas l'article sous les yeux, donc je peux pas les vérifier, mais.
Donc a priori sous-titré ou en français vraiment doublé?
Apparemment ce serait une VF, puisque c'est une sortie française, donc je pense qu'il va y avoir directement une VF.
J'espère qu'ils mettront les deux, comme ça on pourra avoir le choix quand même.
Ouais.
Mais et puis surtout que la version française ne soit pas massacrée. Alors j'imagine qu'on aura toujours les voix habituelles, par contre, fameux Joker du dessin animé peut-être, mais.
Oui, par le doubleur de Christopher Lloyd.
Ouais. Donc du Doc, quoi.
Du Retour vers le futur. Qui le fait vachement bien, je trouve.
Oui, non, c'est vrai qu'il le tient bien. Alors, mais comme c'est pas vraiment le même Joker là.
C'était Mark Hamill.
Voilà.
Donc, ouais. Skywalker.
Comme là il y a eu un changement en fait du cast vocal, ce serait peut-être pas mal aussi qu'il y ait un changement en français, mais je doute honnêtement. Hein, s'ils traduisent, à mon avis, ce sera les mêmes.
Mais je sais pas quelle voix, parce que j'ai vu que quelques épisodes de ce qui s'appelle en français Batman l'Alliance des héros, mais en anglais Batman the Brave and the Bold.
Ouais.
J'ai pas vu Joker passer, donc je sais pas quelle voix française il a. Je sais pas si c'est toujours le même doubleur dans ce dernier dessin animé. Mais d'ailleurs, dessin animé que si vous n'avez pas vu, je vous encourage à voir aussi, qui est très... très très bon, très axé années 60, et ça le fait vraiment.
Ouais, en tout cas les images que j'ai pu en voir ont l'air vraiment sympas.
Ouais. Puis on voit jamais, enfin en tout cas de tous les épisodes que j'ai vus, je n'ai jamais vu Batman hors de son costume. C'est vraiment Batman, c'est pas Bruce Wayne.
Oui, c'est vraiment les super-héros là.
Qui fait un tandem un petit peu à la Marvel Team-Up ou Marvel 2-in-1. Voilà, à chaque épisode, il y a un tandem, quoi.
D'accord.
Vachement bien. Avant de passer à la petite news et au review, il y avait aussi sur le DVD un autre DC Showcase, comme on avait eu sur le Crisis on Two Earths qui était sur le Spectre. Là, c'est Showcase Jonah Hex. Donc je l'ai regardé, tu l'as pas vu toi, Benny, je crois.
Non, je l'ai pas vu, non. Bah comme l'autre l'autre petit film, je l'ai loupé, j'ai pas regardé.
Bah, on n'a pas forcément le temps tout le temps.
Ouais.
Si. Donc ça dure 11 minutes 50 à peu près. Vraiment un court-métrage. Pas du tout la même équipe que ceux qui s'étaient occupés du Showcase Spectre. Pour moi, c'est une bonne introduction à Jonah Hex pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage. Beaucoup mieux que le film. Beaucoup mieux.
Ah oui,
parce que
d'accord, ça quand même.
C'est quand même beaucoup plus proche de ce qu'est Jonah Hex en vrai et non pas un Jonah Hex qui ressuscite les morts,
Ouais.
qui leur parle et qui n'a jamais été élevé par les Indiens.
D'accord.
Voilà. C'est basé sur l'histoire, sur une des histoires de Justin Gray et Jimmy Palmiotti, qui avait été dessinée par Phil Noto et dont on a parlé dans le dernier Big Book qu'on a chroniqué, qui est sorti en France, c'est l'histoire de la pute tueuse. Voilà.
Voilà, donc à mon avis, ils ont mis Jonah Hex avec Red Hood parce que c'était aussi très sombre quand même.
Oui, c'est possible, c'est possible. Par contre, je trouve que le visage de Jonah est peut-être un peu soft. Il a juste pas de peau au niveau de la mâchoire, mais il n'a pas le visage brûlé.
Est-ce que ça ressemble au visage quand même qu'il avait dans la série animée Batman ou plus du tout?
Je me rappelle pas trop du visage qu'il avait justement dans la
En gros,
série.
il avait un œil énorme
Mais
d'un
non, là non.
côté.
Là, il a vraiment juste la bouche, quoi. Il a juste un
D'accord.
trou au niveau de la bouche avec le fil de peau qui est
Ouais.
au milieu, et c'est tout. C'est pour ça que je dis que c'est un peu soft, quoi, au niveau de son visage.
D'accord, oui.
Au casting vocal, on a Thomas Jane pour la voix de Jonah, qui s'en sort aussi à merveille, qui serait très bien pour faire Batman aussi, je pense, une bonne
Ah oui.
vieille voix rocailleuse. Thomas Jane qui devait d'ailleurs, enfin qui espérait jouer le rôle de Jonah Hex dans le film, qui avait même envoyé à la production une photo de lui vraiment maquillé en Jonah Hex et tout, et qui finalement n'a pas eu d'autre choix que se rabattre sur la voix pour faire Jonah Hex. Dommage.
D'accord.
En tout cas, la voix elle colle parfaitement. On a aussi Linda Hamilton qui joue le rôle de la pute. Et
Alors Linda Hamilton, rappelle-moi parce que son nom me dit vraiment quelque chose.
ouais. Linda Hamilton, c'est celle qui jouait Sarah Connor dans Terminator.
Mais le vrai Terminator.
Oui, enfin oui, oui,
Pas
pas
Sarah
les films
Connor
quoi.
Chronicles.
Ouais, les films.
Oui, d'accord, oui, donc elle est connue, effectivement.
Et on a aussi Michelle Trachtenberg qui jouait Dawn dans Buffy. Voilà. Dans les gros noms du casting vocal, voilà,
D'accord.
qui a vraiment un tout petit rôle. Hein. Donc voilà, en tout cas, non, c'est vraiment sympa.
Qui joue d'ailleurs qui double le shérif, je crois. Le gros shérif moustachu, non?
Non, elle double celle qui donne les informations à Jonah
Oui,
Hex.
ça m'aurait étonné, tiens.
Celle qui trahit, en fait, si tu te rappelles un petit peu de l'histoire. Hein.
Ouais. Bah, de toute façon, l'excellent d'ailleurs, Jonah Hex en Big Book, hein, c'est sorti en français, il y en a eu deux.
Oui, et c'est dans le deuxième, justement, cette
C'est
histoire.
dans le deuxième, mais ils sont
Épisode
vraiment bons.
19-20.
Ils sont vraiment bons, faut le rappeler quand même que c'est vraiment une très bonne série.
Donc voilà, ben, Showcase, moi j'attends de voir le prochain. En tout cas, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ces petits courts-métrages pour présenter des personnages. C'est vrai que j'ai préféré le Spectre quand même.
Ouais, quand même.
Honnêtement, ouais. Le Spectre était beaucoup plus péchu, avait vraiment une atmosphère particulière avec ce côté années 70, un petit peu funky.
Mais moi, je fais jamais gaffe aux bonus, en fait, sur les DVD, donc c'est vrai que j'ai même pas regardé.
Mais ouais, donc non, celui-ci est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est
D'accord.
vraiment pas mal.
Bon, je vais me faire les deux prochainement, en plus.
Ouais,
J'ai
ça
la
vaut
flemme d'en foutre le truc dans le lecteur et de...
le coup. Ok, on va passer maintenant à la seule petite news de cette semaine, mais qui a
Oui,
un
alors.
rapport avec notre double review.
Bah oui, petite news rapide. En fait, Marvel a publié une série de teasers sur la fin de Shadowland, puisqu'au fait, c'est des teasers censés nous montrer qui pourrait prendre la relève de Daredevil après Shadowland. Donc, bah, grosso modo, on a qui? On a Nova. Déjà, le mec, le super-héros cosmique, donc qui n'a rien à faire, enfin, c'est pas un street-level character.
Il a tellement plus de séries qu'il va les piquer la série de Daredevil.
Gambit, alors encore un mutant, voilà. Bon, bref, toi tu disais que ça lui allait plutôt bien, mais...
Bah, je trouve que des quatre présentés là, c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus de par le fait qu'il ait un bâton, un peu comme Daredevil, et ouais. Que, bah, au niveau de la façon de combattre, quand il n'utilise pas ses pouvoirs, en tout cas, ça s'en rapproche.
Bon, si vous avez un bâton, donc vous pouvez prendre la relève de Daredevil.
Bah, lui qui a ses...
Non, non, mais je sais, mais je plaisante. Et donc, on a le Faucon aussi.
Oui.
Ouais, bon, voilà. Et Black Panther. Donc, vraiment, tu vois, des gens qui n'ont rien à voir avec Daredevil, ils n'ont rien à voir avec Elskington, quoi. C'est,
ouais, c'est clair.
Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont pas nous faire une team genre protectrice de Elskington, une fois que Daredevil a dit ça. Parce que encore une team avec Nova, Gambit, Blander et le Faucon, pitié quoi.
Ce voilà. Qui veut dire en tout cas que Daredevil ne sera plus le Man Without Fear à la fin de Shadowlands.
Ouais, mais peut-être pendant 3 semaines, avant qu'il revienne, tu vois, avec des cheveux blancs et une nouvelle identité ou un nouveau costume.
Ce sera The Man Who Inspires Fear. Mais...
Voilà, ouais. Ce sera... je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'on a
mais
encore
moi,
un nouveau sorcier?
Je trouve que ça me conforte dans mon idée de c'est lui qui va devenir Ronin à la fin et qui sera la grande menace pour 2 ans.
Ah oui, ouais, ouais, d'accord, oui, c'est ce que tu veux dire, ouais. Ah, bah, peut-être.
Dont on parlait dans le dernier Comics Weekly ou le dernier Comic City, je ne sais plus. Ouais. Comme on a enregistré les deux coup sur coup, je me mélange un peu.
Et c'est Bullseye qui viendra le nouveau Daredevil.
Ouais.
Puisqu'on n'y pense pas, puisque ouais, bah, Bullseye est censé être mort.
Après avoir incarné Hawkeye, maintenant il va incarner Daredevil.
Voilà. Bah, et il l'a déjà incarné d'ailleurs, si tu te souviens bien.
Oui, oui, non, mais bon, disons à plein temps.
Il peut voilà, voilà, voilà. Bah, qui sait.
Ouais, on sait jamais.
Surtout qu'avec les soldats de la main, Bullseye, il pourrait faire, enfin, il pourrait faire un petit détour par le lot de là et revenir très vite.
Comme Elektra, quoi. Petite résurrection.
Exactement. Bon.
Ok. Et bon, bah, on va justement, donc. Cette fameuse double review.
Donc, avec une tranche de cheese au milieu.
Ouais. Ou de moisi, ça dépend.
Non, non, non. Bon, là, je pense que ça va, quoi. Alors, on commence, bah, j'imagine, par le Shadowland numéro 2.
Exactement. Au scénario, Andy Deagle, au dessin, Billy Tan, et à l'ancrage, Victor Olazaba.
Le vieux ça, trou. Ça m'embouche un coin, si tu veux.
Le vieux trou. Donc, c'est la suite de Shadowland numéro 1. Je pense que vous en doutiez pas, donc je précise quand même.
Ouais, c'est vrai que j'aurais pu me tromper. Hein,
voilà, on aurait pu croire que c'était la suite de Brightest Day.
Ouais.
Mais que ça avait changé de titre et de compagnie. Moi, je suis en forme aujourd'hui, là, fou.
Voilà.
J'ai la vanne moisie.
La vanne facile. Ouais, la vanne moisie.
Ouais, non, moisie, ouais, franchement, moisie. Donc, ça commence par Moon Knight qui se met
oui,
à casser des trucs dans Hell's Kitchen, son propre taxi d'ailleurs.
Voilà, pour attirer au fait les soldats de la main, quoi.
Ouais, on se demande un petit peu ce qu'il veut faire, mais voilà. D'ailleurs, on le reconnaît que c'est Moon Knight juste parce que les bulles ont le symbole de la lune, parce que.
Ouais, un petit croissant de lune à la Moon Knight, quoi.
Puisque comme il est en civil et en même temps déguisé, on le reconnaît pas.
Non, du tout.
Et après, on a une scène que j'ai trouvée très sympa où on a Iron Fist et Luke Cage qui sont dans une espèce de soupe populaire où ouais. Danny Rand continue de servir des plats pour les sans-abri et les exclus de Hell's Kitchen.
Oui.
Et on a le Kingpin qui vient les voir pour leur proposer une alliance afin de faire tomber Daredevil.
Voilà, qui en profite bien. En fait, c'est comme, je te dis, hein, c'est comme dans le catch, quoi. Le mec sent que l'autre est devenu un heel, comme on dit. Et donc, lui, il va s'allier avec des faces pour le vaincre, quoi.
Oui, enfin, on voit par la suite ce qu'il fait.
Oui, oui, voilà, oui, bien sûr. C'est le Kingpin, quand même, hein. C'est pas, ouais, c'est pas un petit joueur.
On change ensuite de lieu et on a une scène entre Daredevil et Black Tarantula
oui.
Où on voit sent que Daredevil a ça y est, complètement pété les plombs.
Oui, et puis on voit que Black Tarantula commence à douter de la fiabilité de son maître.
Ouais, et d'ailleurs ce qui est énorme c'est je trouve que enfin au début on sent Daredevil un petit peu hésitant et puis d'un seul coup comme s'il était bipolaire quoi.
Oui, mais c'est ma crainte hein.
Moi, ce qui me fait peur, le truc que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que Daredevil se prend vraiment pour le seigneur féodal du coin. Puisqu'il dit clairement à Black Tarantula, j'ai pas d'ordre à recevoir d'un daimyo.
Ouais.
Et c'est poussé vachement quand même.
Ouais, effectivement. Puis ensuite, on a cette scène avec le caïd, justement, comme tu dis, qui procède à une espèce de cérémonie.
Une invocation et pour se faire un allié, en fait.
Ouais.
Et un allié de poids. On ouais. va pas révéler qui c'est, je pense.
Non, on va pas le dire. Par contre, il est toujours avec Lady Bullseye, qui joue vraiment, alors là, c'est un peu poussif le rôle d'Electra, quoi.
Ouais, complètement.
Et qui reprend, puisque c'est la troisième, au fait, puisqu'entre temps, il y a eu Echo aussi, qui jouait ce rôle-là. Ouais. Donc, bon, c'est un peu toujours la même, enfin, les mêmes combinaisons, quoi.
Il y a aussi les Heroes for Hire qui se pointent dans le fameux Shadowland, espèce de château de Daredevil, pour aller lui parler, essayer de lui faire entendre raison. Et justement, là où j'avais peur avant, parce que le personnage avait vachement changé, on voit qu'il est hésitant là quand même, quand il discute avec ses amis, on voit qu'il commence à se demander s'il est bien sur la bonne pente, puis bon, bien sûr, il y a toujours le déclic qui fait que non, mais on sent encore, disons, pas complètement tourné vers le mal, quoi. Mmh. Et c'est ça que j'apprécie, que je me suis dit, oh là là, c'est un peu trop rapide ce changement d'attitude, mais finalement, il a encore des relents de son ancien lui, finalement.
Oui, tout à fait.
Ouais. Finalement, Diddy Gueule dose bien, quand même. Et puis voir les Heroes for Hire, c'est cool, je trouve.
Oui, alors donc, on retrouve Iron Fist, Luke Cage, bien sûr, mais il y a Misty Knight aussi, oui. Shang-Chi, et Colleen Wing, que je connais pas trop, mais que j'adore beaucoup dans cette combinaison. Voilà, je voulais le dire.
qui faisait partie toujours des Heroes for Hire, hein, depuis le début. Et donc Shang-Chi, ça me fait marrer de voir le Master of Kung Fu dans le coin.
Voilà, ça permet de revoir tous ces personnages, et qui auront des mini-séries hein, aussi. Hein.
Ouais. Et on a Spidey qui se pointe.
Oui, aussi.
Voilà.
Ah oui, puisque Strict Level Character, donc ils sont tous là, en fait.
Ouais. Et puis donc, quand le nouvel allié de Fisk, enfin du Kaïd, commence à débarquer à Shadowland, Daredevil pense que c'est un piège que ses anciens amis ont, pour lui, c'est ses anciens amis ont tenté de lui tendre.
Oui.
Et donc, ça finit en début de grosse baston.
Mais moi, ce que j'ai bien apprécié dans cette scène aussi, c'est le côté, tu vois, conséquence à tout ce qui s'est passé dans l'univers Marvel ces dernières années. C'est-à-dire que Daredevil, en tant que Matt Murdock, un petit peu, leur fait le procès, tu vois, de tout ce qui s'est passé. Genre, il y a eu Civil War, vous avez complètement pété les plombs, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et puis, ça renvoie bien à la scène.
Ouais, vous avez donné le pouvoir à Norman Osborn.
Voilà, ouais. Mais ça revient bien à la scène, tu vois, où à la fin d'un Civil War, t'avais l'arrestation de Daredevil, et il disait, vous avez complètement pété les pions, vous allez le payer un jour. Et voilà, quoi, là, voilà, finalement, ça arrive, quoi, enfin, maintenant.
En tout cas, moi, je suis toujours à fond dedans, j'adore ce Shadowland, pour le moment, ça me déçoit pas. En tout cas, pour la mini-série principale.
Voilà, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que quand tu regardes, on a eu les deux numéros principaux de la série, enfin, les deux premiers. Ça continue dans Daredevil, mais après t'as plein de tie-ins, et là je pense qu'on frôle vraiment l'overdose, parce que si on en est déjà à une baston là entre Daredevil et puis les autres, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans ces mini-séries, franchement.
Bah, on va voir justement. Moi pour le moment c'est tellement bien foutu que je laisse le bénéfice du doute.
D'accord. Bah justement, on va passer donc.
Juste un dernier petit truc. Bon, de toute façon, on aurait pu en parler après, mais la checklist, j'aime bien la checklist comme elle est faite, puisqu'on a toujours le rappel avec tous les tie-ins de quand ils vont sortir, et à chaque fois qu'ils sont déjà sortis, une petite croix sur le nom.
Oui, et ils l'ont fait sur X-Men pas mal ces derniers temps.
Mais la façon de faire là, c'est y a pas, tu sais, la petite case, juste une petite croix. Ouais. La façon de faire, j'ai trouvé ça au niveau de la maquette plutôt sympa.
Bon, voilà.
C'est vraiment pas grand chose. Hein,
Steve remercie le maquettiste, voilà.
Voilà. Donc on passe justement à cette deuxième double review.
Non, cette deuxième review de la double review.
Oui, enfin, qu'on a réduit en un. C'est Shadowland Bullseye, écrit par John Lehman, dessiné par Sean Chen et ancré par Sandu Florea, qui est donc ni plus ni moins que l'enterrement de Bullseye.
Oui, l'enterrement de Bullseye. Enfin, voilà quoi. Moi, franchement, après avoir lu ça, enfin, après avoir lu plutôt Shadowland numéro 2 et d'enchaîner là-dessus, là, je me suis vraiment emmerdé, quoi. Durant cette lecture, en gros.
Bah c'est un petit one shot vite fait, quoi.
Ouais, vraiment vite fait, quoi. C'est pour ça que j'ai peur pour toutes les mini et tous les one shots, si c'est vraiment des trucs, est-ce que ce sera vraiment utile? Parce que là, honnêtement, pour moi, Shadowland c'est un must buy, et là c'est un gros pass hein, pour moi.
Ouais, enfin non, c'est vrai que c'est pas excellent, loin de là. Moi, j'ai pas trouvé ça super désagréable. Au début, on se demande un petit peu, parce qu'on assiste à un enterrement de Bullseye avec des gens qui pleurent et tout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, petit à petit, on comprend ce qui se passe et pourquoi c'est ça. Je vais pas le révéler parce que sinon, il y a vraiment plus d'intérêt.
Ouais, non, ouais, ne le révèle pas, mais bon, je trouve l'explication un peu bof bof, quoi.
Et puis, bah, il y a quand même le personnage principal de cette histoire, c'est Ben Urich.
Ouais, et puis un autre personnage un peu particulier, on va pas aussi.
Donc voilà, mais j'ai bien aimé notamment la scène de fin. Le regard entre Urich et puis voilà. Je ne dirai pas qui, juste pour laisser le suspense, je pense que tu dois voir de qui je parle.
Ouais, je vois de qui tu veux parler. On a quand même quelques petites apparitions donc de personnages qui vont apparaître plus régulièrement dans Shadowlands, comme The Shroud.
Oui.
Qui apparaît en pleine rue. Voilà, donc on voit bien que. Tout se met en place au fur et à mesure, mais là, honnêtement, pour moi, cet épisode, c'est vraiment un épisode.
Par contre, la scène finale, décevante, enfin, pathétique même.
Ouais, non, mais voilà. Bon, il y a juste marqué fin en français. Ça m'a fait marrer.
Oui, bah, comme souvent. Ça, c'est un terme qu'ils utilisent souvent.
Ouais.
Fin ou fini.
Ou fini.
Donc, voilà. Donc, ouais, c'est en train de check-it et un pass, quoi. J'ai
pour
du mal
moi, c'est
à
un
décider.
Pass. Honnêtement, ouais. c'est un tel contraste avec Shadowlands que voilà, c'est.
Bah, quitte à lire les deux côte à côte, commencez par le Bullseye, quand même. C'est vrai, gardez-vous le meilleur pour la fin.
Ouais. Passez. Enfin, prenez-vous juste un simple, quoi, pas un double, ouais. Parce que.
Bah, disons que moi, je l'ai lu en deux fois. Ce matin, avant de partir au boulot, et tout à l'heure, en débauchant vite fait avant le podcast. Terminé et bah c'est peut-être cette lecture en deux fois qui a fait que j'ai trouvé ça moins mauvais que toi, mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas un très bon épisode, en fait.
Ouais.
Faut être clair. Donc voilà, bon bah, donc le Shadowlands 2, un bail, et le Bullseye, bah, pour Benny, un pass, pour moi, en train de check-it et un pass.
Ouais, voilà, on va dire ça comme ça.
Donc,
je crois que je commence.
Ouais, à ta première review solo.
Ma première review solo, donc aujourd'hui ce sera Brightest Day numéro 7, le scénario est de Jeff Jones et de Peter Tomasi, et les dessins, bah, alors il y en a plein, par contre, alors est-ce que
bon,
je les note
pas tout le monde alors, hein, t'en mets pas.
Enfin, il y a, tu vois, ça change les différents personnages, au fait, mais les transitions se font vraiment bien, quoi, ça ne choque pas du tout, en fait, ça ne... Voilà, donc c'est plutôt bien fait, comme d'habitude, hein. De toute façon, c'était l'impression que j'avais eue à la lecture des premiers épisodes de Brightest Day, c'est que y a pas mal d'artistes sur chaque numéro, mais comme ça change selon les personnages, bah voilà, ça fonctionne bien, quoi. Tu vois, on n'est pas choqué, on n'est pas voilà, déstabilisé. Donc bah pour l'histoire, bah. Enfin, j'allais dire toujours pareil. Au fait, le but de la série, c'est quand même de suivre ces 12 survivants de Blackest Night, au fait, qui sont plus que survivants, ils sont même ressuscités, au fait. Mm-hmm. Donc il y a un petit côté, tu vois, à la Lost, puisque au fait, on suit tous les épisodes sont découpés un peu de la même manière, quoi. C'est-à-dire qu'on suit les différents personnages à travers leur quête de savoir pourquoi bah ils sont là, pourquoi ils ont été choisis par la Lanterne Blanche. Et justement, cette fameuse White Lantern, quoi, qui est apparue à la fin de Blackest Night, eh bien, là, on apprend enfin son pouvoir, entre guillemets. Donc, alors bon, là, je pense qu'on l'avait tous compris, hein, autant la Lanterne Noire, c'est en gros la mort, autant la lanterne blanche, c'est la vie.
Donc, putain, bon. Le spoil, quoi, non, quand même.
Ah oui, un gros spoil de la mort. Hein. Non, mais au fait, par contre...
Non, de la vie. Non, spoil de la vie.
Oui, spoil de la vie.
Ouais, non, je sais, c'est pourri.
Oh là là, oh mon dieu.
Je suis fatigué.
Ouais, je vois ça. Je me rends compte de l'ampleur des dégâts, là. Donc, au fait, le gros truc, c'est qu'on n'apprend pas seulement ça, on apprend aussi quel est le véritable but de la Lanterne Blanche, surtout à la fin. Alors bon, je vais pas dire ce que c'est, parce que ça va spoiler la fin de l'épisode, mais en gros...
Je l'ai pas encore lu, en plus.
Ouais. Mais en gros, ce que je peux te dire, c'est que ils auront tous un rôle particulier à jouer, les 12. Mm-hmm. Et Deadman, là, a quand même le beau rôle, quoi. Ce sera, à mon avis, c'est peut-être l'un des personnages vraiment principaux de Brightest Day, quoi, de cette saga.
Ah bah, on le sentait, hein, quand même.
Ouais. Donc Deadman en plus qui vraiment symbolise la mort à lui tout seul. Voilà, c'est quand même bizarre quoi. Pourquoi est-il revenu à la vie? Pourquoi maintenant? Enfin, maintenant du coup il a une apparence totalement humaine quoi. Ouais. Et donc voilà, bon bah la série avance bien hein, quand même. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Enfin voilà quoi, c'est vraiment agréable à lire quoi. On reste pas 3 heures sur la même intrigue. Donc c'est toujours une lecture fluide et c'est toutes les 2 semaines en alternance. Faut le rappeler avec Generation Lost qui est vraiment excellent. Generation Lost. Donc pour moi c'est vraiment un bail hein, de toute façon parce que Brightest Day c'est quand même du très très bon.
Bah c'est du Geoff Johns Thomasy quoi donc,
oui quand même
déjà,
voilà.
Déjà rien que ça parle pour eux-mêmes. Hein.
Ouais. Et voilà hein, de toute façon on va pas je vais pas en révéler plus sur l'histoire parce que voilà, faut pas trop en dire. C'est un truc apprécié sur la longueur, il y aura je crois 26 numéros. Donc on en est qu'au 7e, il reste encore de belles choses à venir.
De toute façon ça dure un an en alternance, c'est voilà. Generation Lost.
Voilà,
un exactement. Peu à la manière de 52 ou Kiranda, toutes ces séries hebdomadaires qui ont plutôt bien marché dans l'ensemble.
En tout cas, là, la cohérence est bonne, quoi. Tout tient debout. Pour le moment, il n'y a pas d'impression de traîner en longueur, un petit peu comme on a eu sur Trinity.
Bah, mine de rien, c'est aussi le fait qu'il n'y ait que 26 numéros.
Ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est vraiment une bonne chose. Donc, un bail, quoi.
Donc, DC, toujours au top.
DC se porte très très bien en ce moment. Hein. Honnêtement, ils font vraiment des séries de qualité entre ça, Action Comics, Generation Lost.
Non, on peut pas toutes les citer, sinon on va faire.
Bah oui, on peut pas. Il y a vraiment, c'est du très bon, voire du bon quoi.
Référez-vous, je crois, au Comics Weekly 9 où on annonçait tous les sold out. Ce sont que des séries géniales.
Ouais, exactement.
Ouais, je crois que c'était le 9 hein. Ou c'était le 8. Oh, j'ai des doutes maintenant.
Oh, bah tu vas passer à ta double review, tiens, ça t'apprendra. À ta review, je veux dire.
Réécoutez-les tous.
Oui, voilà, réécoutez-les tous, ça vous fera du bien.
Ok, bah on va rester chez DC, du coup, pour ma seule review solo.
Oui.
Superman The Last Family of Krypton. C'est donc une mini-série en 3, c'est le premier numéro. C'est écrit par Kerry Bates et dessiné par Renato Harlem. Alors, Kerry Bates, c'est un nom très connu chez DC, qui a écrit Superman pendant très, très, très longtemps. Il a écrit sur Action Comics, c'était pas tous les épisodes, hein. Il en écrivait un peu, après il s'en allait, il revenait, voilà. De 1972 à 1980.
Ah oui, j'allais dire c'était il y a longtemps par contre, parce que ça me disait
ah
rien.
Ah oui, c'était il y a longtemps.
Oui, c'était il y a longtemps.
Il a écrit Superman de 74 à 76 et de 80 à 84. Il a notamment aussi écrit Superboy de 71 à 76, vraiment un habitué du monde Superman. Il a aussi écrit Flash de 72 à 1985, et puis aussi Captain Atom jusqu'au numéro 50, à l'exception du 47, 48, 49.
D'accord.
Entre autres, il a aussi écrit d'autres choses, mais enfin, donc c'est vraiment un scénariste habitué de chez DC, et notamment bien habitué à l'univers Superman. Et donc là, c'est un Elseworld, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu,
ouais.
Et dans cet Elseworld, bah, le nom parle pour lui-même, The Last Family of Krypton, c'est, et si Superman n'était pas parti tout seul dans la navette, mais que ses deux parents l'avaient accompagné. Donc,
ah,
Jor-El est là.
Ah ouais, d'accord. Mmh.
Donc, il débarque... Alors, je sais pas, je crois que c'est en plein Métropolis, mais je suis même pas sûr, en fait, que ce soit Métropolis qu'il débarque. Enfin bon, ils arrivent en pleine ville, devant les caméras, puisqu'ils avaient envoyé un message à longue distance pour prévenir que la Terre quitte d'arriver.
D'accord, ce qui arrange bien les choses, quand même.
Voilà, et donc ils sont accueillis par l'armée, hein, parce qu'on sait jamais avec des aliens.
Oui, bien sûr.
Et puis bah ils se font accepter en fait en sauvant les gens et voilà. Et donc on a vraiment une histoire qui est honnêtement je trouve super bien foutue. Alors faut savoir quand même que c'est 56 pages,
ouais.
C'est vraiment très long, c'est 2 épisodes en fait. Je pense que la mini-série était prévue pour être en 6 au départ, parce qu'on a vraiment 2 parties distinctes avec un deuxième titre. Enfin on a la
pour
partie
un prix 1, de pour un prix de combien, 4, Marie?
4,99.
4,99, formidable. Dans 4,99, oui, bah...
Mais c'est un double épisode en même temps.
Mais c'est un double, donc voilà. Effectivement, et puis de toute façon...
Et puis on met du temps à le lire, quand même. Ouais. Mine de rien, on met du temps à le lire, il y a du texte. Hein.
D'accord.
Et c'est vachement bien foutu. Ce qui est énorme, c'est que il reprend un petit peu l'univers de Superman, et il le modifie en fonction de ce qui se passe. En tout cas, à la fin du premier numéro, Clark Kent n'a que une dizaine, douzaine d'années maximum.
Ah oui. D'accord.
Donc c'est vraiment sa jeunesse là que l'on voit. Et encore, d'accord, sa jeunesse, on voit même pas trop sa jeunesse à lui. C'est plus l'interaction de ses parents avec la Terre.
Et tu penses que ça va mal tourner ou ça va rester assez...
Eh ben, ce qui est très fort, c'est que c'est impossible à prévoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va partir dans une direction et la page d'après, bam, il change. Et donc on se dit, ah bah tiens, ça va partir comme ça. Eh ben non, il rechange. Et donc finalement, on sait jamais à quoi s'attendre. Mais à chaque fois, c'est toujours une très bonne surprise. C'est
D'accord.
vraiment pas prévisible.
Donc c'est vraiment encore une bonne surprise de DC, quoi.
Ouais. Alors bon, bien sûr, il y a un seul truc prévisible.
Lex Luthor.
Oui, Lex Luthor est là, bien sûr, avec un rôle très très intéressant.
C'est le maire de la ville, non, pas du...
Ah non, non, parce qu'il est jeune. Comme,
ah oui, il est
comme
tout... ah oui, c'est vrai qu'il est tout jeune, oui, forcément.
Il est tout jeune.
Oui.
Non, le seul truc prévisible, c'est que bah, finalement, Kal-El atterrit chez les Kent.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà. Mais
enfin, atterrit. Il atterrit pas.
Non, enfin, sa mère, en fait, veut qu'il puisse choisir entre un héritage kryptonien et un héritage terrien, celui qu'il voudra.
Ouais.
Et donc, pour ça, il faut qu'ils vivent avec des humains, enfin des vrais humains, qu'ils apprennent leurs valeurs, et donc elle se met à rechercher une famille qui pourrait lui enseigner des valeurs d'être humain, quoi, des bonnes valeurs, des bonnes choses. Et finalement, elle choisit les Kent. Mais
d'accord.
On la voit hésiter, et c'est super drôle, il y a des petits clins d'œil, c'est super ça. On la voit hésiter pour les parents adoptifs avec Perry et Alice White.
Ah oui. Oui,
voilà.
D'accord. Ouais.
Thomas et Martha Wayne.
Ah oui, d'accord, ok, ouais.
Et un grand classique, et ça c'est, je trouve très sympa, Julius et Gene Schwartz. Julius Schwartz qui était l'éditeur chez DC pendant très longtemps, qui a été un scénariste et qui est souvent apparu dans des comics
oui.
en tant que personnage. Et donc voilà, le voir sur la liste, j'ai trouvé ça très sympa. Enfin, il y a plein de trucs. En plus, au niveau des dessins, il y a une très bonne ambiance. C'est vachement agréable. Le fait de voir la famille réunie, c'est aussi une ambiance particulière. Jor-El est vraiment particulier.
D'accord.
Se rapproche énormément de Reed Richards. Donc il y a beaucoup de, pas, il y a beaucoup de choses comme ça qui passent et qui sont vraiment bien foutues. Vraiment, c'est une super lecture. Pour moi, c'est vraiment un bail.
Ouais, d'accord.
Je vous conseille énormément cet Elseworld.
C'est vraiment la série qu'on n'attendait pas.
Ouais, et puis enfin, ça peut paraître un peu méchant, mais ça me fait plaisir de lire du bon Superman où je me fais pas chier. Comparé à ce que j'ai lu il y a 3 semaines.
Oui, oui, oui. Bah oui, bah pour le moment c'est pas folichon quoi. On va voir ce que ça donne avec. Il y a Earthswan aussi qui doit arriver.
Ouais. Alors je sais pas quand ça arrive par contre.
Non, mais par contre, enfin ça va
mais
encore
j'attends.
Arriver. Donc,
j'attends avec un grand impatience.
Ouais, avec un grand impatience.
Mais c'est que j'ai ma clope au bec et du coup. Ouais.
Bah voilà ce que c'est de fumer. Voilà. Fumer, non seulement ça pue, ça tue, mais en plus c'est. J'arrive même plus à parler après. D'ailleurs,
voilà,
tu vas t'arrêter de parler, Steve, puisque...
Ouais, un grand bail, et je te repasse la parole pour ta dernière review solo de la semaine. Une surprise,
oui.
Tu m'as pas dit ce que c'était, d'ailleurs.
Bah oui, voilà. Alors, bah, attends.
Si c'est Superman de Last Family of Krypton, ça va pas le faire.
Non. C'est pas ça. Mais alors, vas-y, devine. Allez, tiens. Allez. Qu'est-ce que ça peut être, Steve?
Là, honnêtement, je sais pas. Du tout.
Marvel ou DC, à ton avis?
Moi, je dirais du Marvel, pour contrebalancer.
Ouais, c'est du Marvel. Je l'ai même pas fait exprès, mais c'est du Marvel.
Allez, Deadpool 1000.
Oh, ça aurait pu être ça, mais c'est, attention, c'est grandiose, guilty pleasure, et en plus, bonne surprise, enfin, je trouve, c'est le Marvel Universe versus The Punisher.
Oh, j'avais hésité.
Voilà, donc le scénario est de Jonathan Maberi, et les dessins de Goran Parlov, qu'on a déjà vu passer sur le Punisher Max, il y a quelques mois de ça. Alors, en fait, c'est ça commence avec le Punisher qui te raconte que... Enfin, qui est en train de chercher Deadpool, justement.
Encore.
Le fameux Deadpool qu'on voit partout. Donc, il recherche Deadpool ça commence vraiment, c'est très très drôle puisqu'il raconte qu'il a déjà tué Deadpool 13 fois et qu'à chaque fois il revient, et il en a marre et à un moment il l'a même, découpé en morceaux et mis dans des petits sacs poubelles, mais même comme ça il est revenu. Donc, enfin bon. Donc dès le début quoi, le ton est donné, c'est quand même assez marrant. Et donc il exécute une fois de plus Deadpool et il le fout dans des tout petits sacs pour aller le donner à manger à des lions, je crois.
D'accord.
Donc voilà, et c'est marrant. Et après donc il nous raconte au fait ce qui se passe puisque ça commence vraiment comme ça de but en blanc, on se dit tiens, pourquoi le Punisher affronte des super-héros Marvel comme ça. Et là, on se rend compte que ça se passe dans un monde qu'on connaît, puisque un beau jour, Spider-Man affronte le Rhino. Il arrive à vaincre le Rhino devant plein de gens, puisqu'ils sont au Madison Square Garden. Mm-hmm. Et donc tout le monde acclame Spider-Man. Et d'un seul coup, Spider-Man enlève son masque et commence à bouffer tout cru le Rhino, quoi.
D'accord.
Parce que, au fait, ça se passe dans ce fameux monde où il y a eu un virus, tu vois, tu te rappelles, qui a...
Le monde de Marvel Zombie, non?
Voilà, ouais, le monde de Marvel Zombies, en tout cas, ça s'en rapproche grandement, quoi. Puisque là, en fait, le Punisher, du coup, commence à nous raconter la genèse de ce virus, quoi. Ce qui s'est vraiment passé, les différentes étapes, avec les scientifiques, tu vois, de la Terre, qui commencent à se dire, putain, il se passe un truc bizarre, il va falloir contrer ce virus, cette menace. Donc t'as Reed Richards, par exemple, qui fait une intervention télévisée et tout, qui dit au début, bon, qui se veut rassurant, mais genre, juste après son allocution, il y a le blob par exemple qui bouffe tous les gens dans un restaurant.
D'accord.
Donc voilà. Donc enfin vraiment on a le résumé de tout ce qui s'est passé progressivement dans cet univers mois après mois vu par les yeux du Punisher quoi. Et le Punisher qui comme à son habitude tient un journal, tu sais, une sorte de journal de guerre. Alors là c'est le jour 1812 ou 1814, je sais plus, après la contamination. Ça fait vraiment penser dans l'ambiance au film, alors je me rappelle plus du titre, avec Will Smith, tu sais, qui se retrouve dans...
I am a legend.
Voilà, et ben voilà, c'est ça. Bah, c'est I Am a Legend avec le Punisher à la place de Will Smith. Honnêtement. Et franchement, c'est bonne surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Moi, pour moi, le Punisher versus Marvel Universe, c'était genre le Punisher qui se coltinait tous les super-héros du Marvel Universe parce qu'il était pas d'accord avec leur méthode et ou enfin, tu vois, un
Moi, je
truc comme
pensais que
ça.
c'était un rappel, c'était un one shot, je crois, qui avait été fait dans les années 80 ou
Ah non.
90 peut-être.
Ah ben là, pas du tout. Et on apprend en plus de surcroît que le Punisher a affronté des espèces de mafieux quelques mois avant la contamination. Et en les affrontant, en fait, il y a une espèce d'explosion d'un produit prototype expérimental, quoi. Et ça l'immunise contre le fameux virus qui transforme tout le monde en zombie. Donc en plus, on sait pourquoi le Punisher a survécu jusque-là. Et au fait, c'est l'un des seuls types au monde, apparemment, à être immunisé. Et donc, il peut survivre dans ce monde où tout le monde s'est transformé en zombie.
Et il pourrait pas aller voir Reed Richards en disant je suis immunisé.
Ben, il a essayé, mais tout le monde a
Ah d'accord.
disparu. Il est vraiment tout
D'accord.
seul, au bout d'un moment. Il est tout seul, quoi. Il se demande même si, dans le monde, quelque part dans le monde, en dehors de New York, quoi, il y a toujours des survivants. Il le sait pas pour le moment. Mais à la fin, donc, il y a quelqu'un qui lui laisse un message. Et apparemment, c'est le sujet zéro, à savoir Spider-Man, puisque c'était le premier qui s'est révélé être un zombie. Il lui laisse un message puisqu'il entoile plusieurs rues de New York. Le Punisher va essayer de le trouver. Et d'ailleurs, ça se termine sur une splash assez marrante, où tu vois au fait plein de têtes de super-héros et de super-vilains sur des piquets. Parce que le
D'accord.
voilà quoi, c'est vraiment, on est vraiment dans le Punisher quoi. Enfin c'est très bonne surprise quoi. Tu vois le scénario, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. C'est super sympa. C'est en trois parties simplement. Donc là voilà.
Ah, je croyais que c'était en 5, moi, personnellement. Tu vois, je me suis
Ah,
trompé.
il me semble que c'est trois. Hein. Attends,
Non, mais c'est possible, hein.
Ah
Je vais regarder
c'est en
ça vite fait.
quatre.
Bon, bah d'accord, bah pile
Sauf
poil au
que voilà,
milieu.
on a tous les deux faux. Voilà, en quatre parties. En tout cas, c'est encore une bonne surprise. Tiens, c'est enfin voilà, une bonne surprise Marvel pour une fois.
Finalement, c'est pas les meilleures choses sont pas forcément là où on les attend.
Non, pas du tout, pas du tout.
Qui sait,
Bah
je vais peut-être aller lire Deadpool 1000 alors, ça sera peut-être super bien.
non, mais en tout cas, moi je te conseille cette lecture qui est vraiment sympatoche quoi.
Ok, bah écoute, ouais, si j'ai le temps, j'y jette un œil.
Donc un bon check-it, hein, si ce n'est un bail, parce que du bon Marvel, ça devient rare en ce moment.
Et puis ça permet de voir le Punisher autrement qu'en Frankencastle.
Exactement, en plus. Ouais. Bon,
Qui,
du reste,
chose.
Frankencastle est peut-être bon, hein, je sais pas.
Je sais pas, ça m'attire pas du tout personnellement. Donc,
Ouais, faut voir.
Ok, très bien. Bon bah, finalement une assez bonne semaine hein, dans l'ensemble.
Ah ouais, de bonnes surprises. Des trucs qu'on n'attendait pas forcément, donc qui s'avèrent plutôt pas mal.
Bien. Bon bah c'est tout pour cette semaine. Pas de mail cette semaine, mais il y en aura bientôt. Il y en a
Ah
reçu
bon.
déjà un mail pour le Comic City le prochain.
D'accord. Ah,
Enfin, disons
bon.
que c'est plus une question qui ça vaudrait mieux répondre dans le Comic City que dans le Comics Weekly. C'est plus par rapport aux parutions françaises, notamment.
D'accord.
Donc voilà. Vous pouvez retrouver, comme toujours, tous les épisodes sur iTunes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. De toute façon, vous avez les liens sur le site. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties de la semaine. Prochaine. J'espérais que tu...
Voilà. Et d'ici là...
Ben, comme toujours, portez-vous bien. Et j'attends ton super mot de la semaine.
Et puis sinon, pour clôturer, je dirais même...
Oublie la conjugaison, c'est pas grave.
Ouais. Sur le tutu.
Oh là là.